19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez comme chaque soir, ici, c'est ici que ça se passe puisque nous commentons, nous décryptons, nous analysons l'actualité en temps réel, en direct, dans les informés sur Beurre FM. C'est parti pour, alors d'abord au sommaire, ce que je vous propose, plusieurs choses, plusieurs sujets. Nous reviendrons évidemment sur la mort de la vedette, cette vedette journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, qui elle s'est retrouvée évidemment dans un raid de l'armée israélienne à Jenin en Cisjordanie, et la reporter vedette évidemment a été tuée il y a quelques jours à peine, et beaucoup appellent à la responsabilité évidemment d'Israël. On en parlera tout à l'heure au 0153 48 3000, mais également avec nos débatteurs influenceurs. Autre sujet qui a aussi retenu notre attention, eh bien ce sera les législatives. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce que effectivement cela a été toujours un sujet qui préoccupe la diversité. Les élus, c'est de la diversité. Est-ce qu'ils sont plus présents que jamais à l'Assemblée nationale, oui ou non? Est-ce qu'ils sont visibles lors de ces investitures partout en France, dans les quartiers, mais pas que? Est-ce qu'on parle de la diversité dans toutes, évidemment, dans toutes les zones de l'Hexagone? Ensuite, autre sujet, c'est l'invasion de l'Ukraine, mais nous nous intéresserons, vous savez quoi, avec cette guerre. Est-ce que cette guerre annonce-t-elle un nouvel ordre mondial? La question qu'on soulèvera, parce que c'est une bataille. Il y a d'un côté de grands, les États-Unis et la Russie. Est-ce qu'ils se battent pas, évidemment, pour prendre le lead, ou tout simplement pour réorganiser, redessiner la géopolitique mondiale? À 19h30, eh bien, nous retrouverons le Quoi de Neuf. Et puis ensuite, l'interview de la semaine, mais du jour surtout, c'est avec évidemment une personnalité que vous connaissez, qu'on a reçue à plusieurs reprises ici. Il s'appelle Tarek, il sera avec nous pour parler de ce qu'il fait concernant évidemment ce fléau qui perdure de drogue, mais pas que, aussi les toxicomanes qui se retrouvent dans des situations extrêmement préoccupantes. Les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informer avec Adil Farkan.
C'est parti pour l'invité du jour.
Les informer, le Quoi de Neuf.
Alors, c'est pas le Quoi de Neuf, c'est l'invité du jour. On appelle ça un petit couac technique. Ça nous arrive, c'est ça le direct, ça prouve qu'on est en direct. Tarek, bonjour, Tarek. Tarek, vous êtes avec moi?
Oui, je suis là. Bonjour Adil, bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM et des informés, à toute l'équipe.
Tarek, vous êtes le fondateur du collectif Crack, hein, Anti-Crack, pardon.
De base, Paris Anti-Crack et ensuite 93 Anti-Crack, qui a malheureusement été usurpé par le Parti communiste qui aujourd'hui...
Mais il faut les attaquer, non?
Vous voulez attaquer comment quand un collectif est quelque chose d'informel? C'est pour ça qu'on a créé des associations.
C'est
maintenant.
Vrai, c'est vrai.
Et sur ces associations, on travaille sur le terrain directement.
Bon.
On a la remontée, on a Méditerranée Link.
Bon, alors, je sais. Alors, on vous connaît parce que vous êtes intervenu sur l'antenne à plusieurs reprises. Tarek Sassi, on a échangé pas mal de fois, hein, en off. D'abord, vous m'avez alerté à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle vous êtes à l'antenne en ce moment même, en direct, avec votre. Mais c'est normal. Et vous m'aviez alerté sur la situation de la crise de la drogue, du crack, qui dépasse tout, qui vous dépasse vous-même d'ailleurs. Vous m'avez alerté parce que vous m'avez dit la situation est en train de s'aggraver. Est-ce que on peut rappeler à nos auditeurs aujourd'hui où en est-on évidemment sur la situation des toxicomanes et de l'association qui œuvre justement dans ce sens?
Alors, on est aujourd'hui sur Paris à plus de 30 000 consommateurs, Île-de-France.
Rapprochez-vous bien de votre combiné, parce qu'on vous entend vraiment de très très loin.
Là, vous m'entendez, c'est bon?
C'est nettement mieux.
Ouais, donc je vous disais, sur Paris, on est à 30 000, Paris-Île-de-France, hein, 30 000 consommateurs, avec une concentration de provinciaux et de plusieurs personnes issues de différents pays d'Europe et réfugiés.
Oui.
Donc là-dessus, on peut pas encore vraiment chiffrer, mais on a ce chiffre-là de l'OFDT qui est en constante croissance. Il faut savoir qu'on était à 15 000, 20 000 mois d'octobre, on est maintenant à plus de 30 000. Aujourd'hui, c'est Porte de la Villette, Mais porte de Charenton, porte de Clignancourt, toutes les portes de Paris sont maintenant envahies et devenues dangereuses.
Oui.
On a plus d'hôtels sociaux sur la Chapelle. On a encore plus d'hôtels sociaux sur côté Stalingrad. La gare du Nord, elle est devenue impossible.
Oui.
Gare de l'Est, les restaurateurs ont sonné l'alerte. Personne ne nous écoute. Et pendant ces présidentielles, j'ai rencontré Bruno Le Maire, Estrosi, Elisabeth Borne, Elisabeth Moreno, Marlène Schiappa, qui m'avait dit qu'elle me recevrait dans son cabinet. Et elle a rien.
Ouais.
Aucun moyen. Et nous sommes vraiment dans une merde ancestrale.
Et pourquoi il n'y a rien? Pourquoi ça n'avance pas? Vous les avez alertés, vous les avez sensibilisés, vous les avez informés. Pourquoi ça ne bouge pas, Tarek Sassi?
Alors, ils ont leur calendrier électoral. Ils ont leur calendrier électoral, alors que, bon, aussi, au niveau local, on a déposé des dossiers, mais maintenant, il y a cette retenue qu'on doit avoir pendant la période électorale. Mais ils n'ont pas compris qu'on vit une urgence. Quand aujourd'hui, on intervient à plusieurs reprises pour faire sortir des mineurs de squats, de craqueux, on se retrouve dans des situations ingérables,
oui.
Que la police peut nous appuyer, des fois ne peut pas nous appuyer, que nous-mêmes, on manque de moyens sur le terrain, qu'on est obligé de se combattre pour ça, et qu'on ne peut même pas, en plus, venir à nos besoins, ça veut dire qu'on ne peut même plus travailler comme on travaillait avant cette crise sanitaire, ça devient n'importe quoi.
Et oui,
les gens, en plus, nous demandent constamment d'être patients, d'attendre, c'est plus possible. Puis de l'autre côté, cette grande coalition de gauche qui est responsable aujourd'hui de la merde qu'on a...
Ah bon? Vous la rendez responsable, vraiment?
Bien sûr, bien sûr. Ils ont toujours été dans les postes, si bien conseil général, mairie, que ce soit...
Donc vous êtes en train de me dire que la faute est à l'union de la gauche?
Elle est de base, toute la source de tout ça, ça a toujours été l'union de la gauche qui a voulu faire de l'accompagnement à la consommation. Aujourd'hui, le désastre...
L'accompagnement à la consommation.
C'est wow. Les salles de shoot. C'est aujourd'hui, par exemple, je vous amène au Tipine à la rue Pajol, qui est à deux pâtés de chez moi, où on distribue des pipes à crack, des nécessaires pour stériliser, des seringues, et que vous retrouvez ça sur une des mineures que vous retrouvez. On a fait la dernière opération qu'on a fait. Et c'est là, on dit, voilà, je veux dire, l'aboutissement, en fait, de cet accompagnement de la consommation, et qu'en plus de ça, des partis politiques, en particulier Europe Écologie Les Verts, qui influencent à que ça aille à des 25 millions d'euros de subventions, et qu'à un moment donné, même la majorité présidentielle s'est perdue à ça, ce n'est plus possible.
Oui, oui.
Ce n'est plus possible.
Dites-moi, Tarek Sassi, franchement, honnêtement, je vous pose la question. J'ai l'impression que vous êtes quand même dépourvu de moyens. Vous
totalement.
Êtes désarmé face, évidemment, à ces interlocuteurs qui n'avancent guère, hein, évidemment. Je comprends, j'entends votre message. Que reste-t-il à faire, Tarek Sassi?
Nous,
puisque déjà, quand je vous écoute parler, la situation, elle est grave.
Ce qu'on a fait, on doit pas lâcher. Parce que si on lâche, c'est tout simplement la mise en danger de nos familles, de nous-mêmes. Et on ne peut pas lâcher. Et depuis justement qu'on a cette posture où on s'affirme même si on est menacé, eh ben les toxicomanes les plus virulents, et surtout les dealers qui voulaient un petit peu instaurer leur système, sont en recul. Depuis qu'on a fait en sorte que ce soit médiatisé plus que jamais, ils sont en recul. Mais malgré tout, je veux dire, même s'ils sont moins menaçants, ça n'empêche pas que le nombre se développe, mais qu'il faut continuer, et il faut que les habitants des banlieues de Paris soient unis, peu importe leur étiquette politique, mais pour le bien des familles. Et qu'on ne peut plus défendre aujourd'hui l'accompagnement à la consommation.
Bon.
Et qu'il y a des militants de gauche qui sont contre ça, mais que malheureusement les partis politiques et les gérants de ces partis politiques veulent défendre le projet d'accompagnement à la consommation, parce que c'est...
Alors Tarek Sassi, justement, ça tombe bien, il se trouve qu'un de nos débatteurs est journaliste, indépendant, et il a fait une immersion, justement, à la colline du crack, pendant 15h midi.
Oui.
Bonjour Mehdi.
Bonjour. Alors oui, tout à fait. Bonjour Tarek. C'est très intéressant ce que vous dites, et je suis complètement d'accord avec vous. Moi j'ai passé 15h là-bas en me faisant passer pour un toxicomane auprès des associations, auprès des policiers, et auprès des dealers et des toxicomanes eux-mêmes. Donc voilà. Moi ce que j'ai vu, globalement, c'est que dans la rue même, Moi, c'était au Parc-Éole, hein. C'était à l'époque où c'était au Parc-Éole, vers Stalingrad. Il y a carrément des dealers qui arrêtent les gens dans la rue pour leur proposer des galettes. Vous savez, les galettes, c'est voilà, des 10 balles quoi, de crack. Quoi.
On voit très bien.
Et y a des choses vraiment atroces. Les gens se rendent pas compte en fait de ce qui se passe en ce moment même à Paris, parce qu'on parle beaucoup de l'international, on parle beaucoup de ce qui se passe dans le monde, mais il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe à côté de chez nous. Et à côté de chez nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a des viols à toutes les minutes. Toutes les femmes quasiment se prostituent pour 10 euros. Il y a des choses réellement horribles qui se passent. Et je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a la gauche majoritairement pense que il faut accompagner les gens avec le crack. On n'accompagne pas avec le crack. Le crack, déjà, c'est un délit. C'est quelque chose qui est nocif. Et jamais de la vie, on peut accompagner quelqu'un dans une drogue comme le crack.
Vous comprenez, Tarek Sassi.
Mais tout
donc
à fait. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, et c'est ce que beaucoup même sur place m'ont dit, ce qu'il faut faire, c'est justement, c'est stopper déjà les réseaux des maudous. Parce que voilà, les dealers, je sais pas si c'est pareil partout. Moi, en tout cas, là où j'étais, on les appelait les modous, les dealers de crack.
C'est pareil.
Voilà. Et ben en fait, il faut les stopper déjà. C'est très compliqué, certes, mais il faut les stopper. Il faut une vraie et réelle autorité policière là-bas, parce qu'il y en a pas. C'est vraiment l'anarchie là-bas. Ça, il faut dire vraiment qu'on vit dans une anarchie. Et ensuite, il faut accompagner les femmes qui se prostituent. Il faut stopper. Il faut les stopper, il faut les accompagner, mais pour qu'ils arrêtent pas, les accompagner pour qu'ils continuent à consommer. Parce que les accompagner pour les faire continuer à consommer, c'est justement en fait renforcer leur dépendance et renforcer en fait le fléau qui se drape dans Paris. Et personne ne veut le faire. Ça, Anne Hidalgo l'a donné au gouvernement, le gouvernement ne veut pas. Enfin, personne ne veut faire. Donc, je comprends tout à fait la détresse de Tarek et je compatis tout à fait. Et bravo, monsieur, pour ce que vous faites.
Bon, Tarek Sassi, dernière question. Dites-moi.
Je voulais préciser une chose, parce que je vous avais alerté sur ce qui s'était passé lors du seul passage en Île-de-France du président de la République. Président de la République qui est venu à plusieurs reprises à Aubervilliers, mais c'était privatisé, on ne pouvait pas lui parler, qui est venu au M19, mais malheureusement c'était du VIP, c'est uniquement que le monde de la mode et pas nous, alors qu'à la sortie hors d'Aubervilliers, c'était rempli de toxico, mais pas grave. Et la seule fois où est-ce qu'on pouvait l'interpeller, c'était à Saint-Denis, vous y étiez, je vous ai interpellé par rapport au fait que j'ai été traité comme un malpropre, alors que j'ai fait partie de ces éducateurs qui sont intervenus pendant les émeutes de Gilets jaunes qui ont empêché beaucoup de cas.
Oui.
J'avais été reçu à Matignon pour ça. Il y avait des engagements de Matignon pour ça qui n'ont pas été respectés à cause de la crise sanitaire. Et à trois reprises, la sécurité présidentielle m'a bousculé. Ils ont blessé mon vice-président Mohamed Bader et ils m'ont plaqué contre une paroi vitrale. Tout ça parce que je voulais poser trois questions au président. La première, c'est sur la situation sur le crack. Le Conseil national des villes avec les mêmes associations qui s'enrichissent sans rien faire du tout, et l'évolution de la politique de la ville. Et malheureusement, le président de la République, alors que j'ai répété ça plusieurs reprises, en me voyant plaqué contre une paroi vitrale par un président de sécurité, m'a répondu, ne vous inquiétez pas, on va tout renouveler. Alors qu'il sait qui je suis, et qu'on l'a interpellé à plusieurs reprises sur les médias, on l'a remis des côtés, il sait qui on est. Il sait qui on est. Son maître de camp, le jour de son meeting à la Défense, son maître de camp avait notre dossier. Et jusqu'à maintenant, il ne parle pas de nous, et il nous méprise.
Bon. Effectivement, on comprend mieux. Vous nous tenez au courant, Tarek Sassi ?
Je vous tiens au courant, et puis je remercie l'antenne de Beurre FM et vous-même, Monsieur Farkan, de nous donner la parole, parce que ça devient très très dur, et qu'aujourd'hui, voilà, on donne vraiment le temps de parole à du théâtre politique. Mélenchon a changé de culotte, Zemmour va partir en vacances, alors que nous vivons une réalité.
C'est ça.
Et nous en avons marre de ces élus.
Vous avez...
Un kilo de viande ou un kilo de tomate ou une baguette. Il faut des gens du réel.
Bon, bah écoutez, Tarek Sassi, nous sommes évidemment, c'est normal, vous avez la parole ici de façon libre dans les informés sur BFM.
Merci beaucoup.
Il y a un autre débatteur qui vous salue aussi, qui vous connaît, qui s'appelle Ahmed Lawedj.
Bonjour Tarek, bonsoir, comment vas-tu ?
Ça va très bien.
J'ai remarqué que tu es toujours dans le combat.
Pas le choix. On n'a pas le choix.
Et je te suis, tu sais, je te suis parce que j'ai vu tes interventions quand tu as intervenu auprès de Marlène Schiappa. Et c'est vrai que j'avais vu qu'elle t'avait dit « Vous inquiétez pas, on va se voir ». Je confirme ce que tu viens de dire.
Rien n'a été fait.
Voilà.
Eh bien voilà, il y a des témoins. Vous avez vu, Tarek Sassi, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
C'était l'invité des informés. Nous allons
Les informés, l'interview.
Nous allons nous retrouver avec Ahmed Lawedj. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va,
Adil, ça va ?
Le patron du Parti radical de gauche. Oui. Ah là là, ça s'annonce bien pour vous ou pas là?
Écoutez, nous, c'est clair.
Vous êtes bronzé, dites donc. Hein. Ça va, ça bronze aux législatives.
Je crois que vous vous présentez.
Vous êtes investi pour la 9e circonscription des étrangers, des Français à l'étranger.
Il y a du monde là-bas.
Il y a du monde là-bas. Vous avez bon teint de ce côté, hein, je crois. Mehdi Jalziri, bonjour.
Bonjour.
Journaliste indépendant, c'est le retour?
Tout à fait, bah oui, ça fait un petit bout de temps.
Ça fait un petit bout de temps. Welcome.
Merci beaucoup. Et je tenais à vous remercier parce que vous vous rappelez du cahier de doléances, vous m'avez interviewé à la base pour ça.
Oui, exact.
Bah là, on a bien avancé. Là, j'ai été reçu aujourd'hui par La République En Marche.
Ah bon?
Oui.
Ah, super, vous allez me raconter alors.
Bah oui. Et puis, donc voilà, je voulais vous remercier parce que vous avez fait partie des premiers qui m'ont interviewé, qui m'ont donné de l'image, un peu d'image à ce projet.
Mais c'est ça, les informés.
Donc, merci beaucoup.
C'est ça, les informés. On ne lâche rien. Karim Alouache, bonjour.
Bonjour.
Un acteur politique sur la ville de Bondy, toujours présent d'ailleurs, pour observateur politique maintenant. Enfin. Et par ailleurs, il est dans la finance. Comment ça va, Karim?
Ça va bien, ça va bien. Le spectacle, bon. Ça vaut les pop-corn. Donc je vois tout ce qui se passe sur la législative.
On va en parler.
Parachutage.
On va en parler. Allez, pause, pub et on se retrouve. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h23 précisément, le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Messieurs, avec Karim Alouache, avec Mehdi Jalziri, avec notamment Ahmed Alouache, la mort de la journaliste, la vedette, grand reporter d'Al Jazeera, Shirin, donc Abou Alek, place Israël, on va dire, face à ses responsabilités d'occupant. Ça, c'est le titre du Monde. L'émir du Qatar accuse Israël de la mort de, justement, de la grande vedette journaliste. Ensuite, vous savez, beaucoup d'émotions, beaucoup la mort de la journaliste suscite une onde de choc dans le monde arabe, suscitant même d'ailleurs des manifestations un peu partout dans le monde, parce que c'était une icône américano-palestinienne dont le visage et la voix étaient devenus, je le rappelle, familiers. Elle était même d'ailleurs, vous savez quoi, elle avait pénétré les foyers des millions d'arabophones dans le monde entier pendant des décennies. Puisque c'est vrai, quand on regarde Al Jazeera, on ne voyait qu'elle quasiment, puisqu'elle couvrait régulièrement donc la guerre. Mehdi Jalziri, vous voulez prendre la parole. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire évidemment de cela?
Déjà, moi,
y compris les États-Unis ont condamné.
Adil, les auditeurs vont pas le voir, mais regardez, mes bras, j'ai des frissons. Oui. Pour vous dire, ça me touche profondément.
Oui. Oui.
Et en même temps, ça m'énerve.
Oui.
Pourquoi ça m'énerve? Parce que là, on a tous les dirigeants arabes qui s'énervent, qui disent oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Il y a un truc dans toute l'histoire. Depuis le début,
oui.
Quand les musulmans se sont dispersés un peu, se sont divisés,
oui.
Ça a rendu les autres plus forts. C'est simple. Les musulmans sont très divisés aujourd'hui. Tous les pays musulmans sont hyper divisés. Chacun ont leur petite alliance. Donc ça fait qu'en fait, ça laisse énormément d'espace à Israël. Et finalement, Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait leur rôle d'occupant, leur rôle de guerrier. Ils font la guerre, Israël. Et Israël sont en guerre. Donc en fait, Israël font juste ce qu'ils ont à faire. Les musulmans sont pas capables de bouger, même pas un petit doigt. Et c'est pas, et là on parle de ce qui se passe en Israël, mais sans vouloir rentrer dans
le débat. Je rappelle, elle a été tuée par balle,
oui,
mercredi, alors qu'elle couvrait une opération.
Bien sûr.
Donc en
Cisjordanie. Ça pose des questions sur la liberté de la presse, ça pose des questions sur comment sont traités les Palestiniens, parce que là on parle d'une journaliste quand même qui a quand même des origines aussi américaines, mais comment sont
elle
traités les Palestiniens?
Voilà. Elle est américano-palestinienne.
Américano-palestinienne,
excusez-moi. Ouais, elle est américano-palestinienne.
Donc voilà, je veux dire, en fait, il y a énormément de questions qui se posent, mais moi, pour moi, la première question que je me pose, c'est que fait le monde musulman face à ça?
C'est même pas le monde musulman.
Ahmed, prenez la parole.
C'est le monde arabe.
Le monde arabe.
Ça s'appelle, pour moi, c'est de l'hypocrisie.
Tout à fait.
Et ce mot-là, et voilà. Et aujourd'hui, franchement, moi, je vois pas dans la presse ou la télévision française en parler matin, midi, soir. Si c'était une autre personne, je pense.
L'Ukraine, regardez.
On aurait. Voilà. Et cette hypocrisie-là fait en sorte qu'à un moment donné. Même les pays du Golfe, hein, parce que moi pourtant c'est plutôt eux qui sont concernés par qui sont écoutés, on va dire, les pays du Maghreb, mais le plus c'est le Moyen-Orient et les pays du Golfe. J'ai pas vu moi d'intervention forte qui permettait, mais à qui profite le crime? Parce que je pense que ça, c'est pour aussi.
Tout le monde condamne, mais est-ce que ça suffit?
Non, c'est pour
les Américains ont condamné.
C'est pour faire en sorte.
Mais aussi, c'est pour faire ça.
Comme l'a dit notre
Mehdi Jalziri,
c'est que c'est pour continuer la guerre. Continuer la guerre de colonisation, de dire voilà, mais voilà, mais écoutez, non, mais nous on a cru que c'était quelqu'un, on a tiré, c'est pas nous, c'est eux, c'est pas nous, c'est. Il faut arrêter. Malheureusement, si la seule solution qui peut être faite pour qu'il y ait une paix au Golfe, c'est que les pays du Golfe et du Moyen-Orient se mettent d'accord, mais comme ils ne se mettront jamais d'accord,
en tout cas, on réclame
toute la chance.
Beaucoup réclament la vérité, évidemment, de ce qui s'est passé
continuer,
aujourd'hui.
Continuer de faire ce qu'il a envie de faire.
Et
j'ajouterais même que depuis.
Le gouvernement, je parle pas des Israéliens en lui-même, je parle du gouvernement et de son attitude par rapport au peuple palestinien qui aujourd'hui en prend plein la figure.
Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a qu'à regarder un peu dans l'histoire, c'est pas la première fois que le monde arabe est aussi divisé. À l'époque, quand il y avait l'Empire Ottoman, le premier objectif des Anglais, c'était justement de diviser les musulmans et de faire en sorte que l'Empire Ottoman éclate. Et c'est à ce moment-là où Israël, justement, avait ses premières, on va dire, voilà,
les premières années. Je préfère dire des pays arabes. Arabo-musulmans, parce
bien
que
sûr.
C'est des pays arabes aujourd'hui, voilà, les musulmans, on en a des musulmans, il y en a partout.
C'est vrai, il a raison de le rappeler. L'Indonésie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle-même, elle est de confession chrétienne.
Voilà.
C'est-à-dire qu'elle est d'une famille chrétienne, voilà, elle le revendique et ça. Et c'est vrai qu'elle s'adressait non pas au peuple musulman, mais elle s'adressait, comme le rappelle Ahmed Lawedj, c'est vrai, elle avait pénétré le foyer du monde arabo-musulman. C'est pas que. Ah, effectivement, c'était extrêmement large.
Voilà,
Karim Alouache. Ah, effectivement.
Non, mais tout d'abord, une pensée aux familles. C'est terrible ce qui s'est passé. Et je trouve que, oui, en France, ça met du temps à réagir. Après, sur ce que tu disais, Ahmed, faut pas rêver, ça réagira pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une vraie enquête, que la lumière soit faite, que le ou les responsables soient condamnés. Ce qui se passe là-bas, c'est pas une guerre de religion, elle est chrétienne, donc ça n'a strictement rien à voir en réalité. Et moi, j'ai envie de dire que ce serait-il passé s'il y avait une scène similaire en Ukraine aujourd'hui, et quelles auraient été les réactions. Moi, je crois que pour la paix, il faut que la lumière soit faite là-dessus. Mmh. Et attention, on mélange pas tout. Il s'agit pas de porter, je dirais, l'opprobre sur une religion ou autre. Maintenant, je crois que les Français et autres font vraiment la part des choses entre.
En tout cas, les pays arabes, Karim Alouache, ils demandent à l'ONU une enquête indépendante.
Mais je dirais que c'est pas les pays arabes, c'est le monde entier doit demander une enquête.
Les Américains le réclament aussi.
La France ne demande pas.
Mais c'est une manière de faire genre encore une fois. Enfin, je veux dire, ils sont bien drôles les Américains, mais ils soutiennent comme des malades d'Israël en sachant que c'est pas récent. Enfin, je veux dire, il y a une journaliste qui s'est fait tuer. Allô, ça fait des années que ça existe le truc. Enfin, je veux dire, les Américains soutiennent Israël. En fait, le but des Américains. Après voilà, je suis pas voilà
profite,
la division du voilà c'est ça on divise
israélien.
On divise toute la région pour que comme ça les pays l'Occident les pays les plus puissants puissent en profiter un maximum, mais c'est exactement ce qui se passe. Et Israël, c'est on va dire pour moi c'est une colonie de des États-Unis, c'est clairement ça. Donc en fait c'est bien marrant qu'ils disent ils veulent une enquête, c'est pas quoi, c'est voilà, ils ont fait une gaffe, Israël, ils se sont dit bon bah ce qu'on va faire, on va demander une enquête, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais en soi, dans les faits concrets, il y aura rien. Comme d'habitude, il n'y aura rien.
Ils ont dit que ce n'était pas eux. Hein.
Oui. Ils ont dit effectivement que.
Ils ont dit que ce n'est pas nous.
Oui,
hein.
Oui. Ils ont dit que c'était les soldats palestiniens.
On va faire, mais ce n'est pas nous, c'est eux.
Ouais.
C'est aussi l'embrasement dans cette région. Et je dis encore une fois, tant qu'il n'y aura pas une prise de position des Arabes entre eux pour dire stop, il y a quand même aujourd'hui quand même une chose qu'il faut savoir. C'est qu'il y a des pays arabes aujourd'hui qui font. Moi, je ne suis pas contre, hein, moi, j'ai pas, je dis pas. Mais je dis qu'aujourd'hui, ils ont une alliance diplomatique avec Israël.
Bien sûr.
C'est aussi ça qu'il faut mettre en place dans la diplomatie, de discuter avec Israël. Si ces pays arabes sont.
Beaucoup de pays arabes aujourd'hui ont signé des.
On les accords. Donc c'est à eux de dire.
Vous en avez quand même pas mal aujourd'hui.
Israël, stop, faut que ça s'arrête. Mm. On met le paquet sur l'Ukraine, il faut qu'on mette le paquet sur le Moyen-Orient pour que la paix aujourd'hui existe.
C'est la paix, effectivement, qui doit dominer.
Pour les habitants.
Et qui doit gagner.
Qui sont aujourd'hui les seuls, on va dire. Les seuls qui
ils sont cousins, il n'y a pas de raison.
Et les seuls qui sont aujourd'hui pris à partie par cette guerre qui est aujourd'hui intolérable.
Et puis, moi j'aimerais faire un comparatif entre les pays arabes face à Israël et l'Union Européenne face à ce qui se passe en Ukraine. En fait, ils sont faibles, dans tous les cas. Les pays arabes sont faibles en général, ils se sont affaiblis. Avec le printemps arabe, par exemple, qui a clairement affaibli les différents pays.
Ils se sont affaiblis.
Oui, voilà. Ouais, effectivement. Voilà, ils sont complètement affaiblis. Donc en fait, ils ne pèsent plus en soi. Ils ne pèsent plus. Mais... L'Arabie Saoudite pourrait peser, mais elle peut. Mais c'est pas dans ses intérêts de peser.
Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi les pays arabes? Ça concerne le monde entier. Ça concerne pas.
Bien sûr, mais. Quand on regarde la région, mais regardons la région.
Non, mais on s'en fiche de la région. Non, mais... Peu importe.
Déjà, commençons par la région. Mais à un moment donné, tu vas parler de ça, je sais pas, d'un pays, ils vont dire.
Non, mais Ahmed.
L'Australie, ils n'ont rien à faire.
La région n'a pas plus de légitimité pour dénoncer, combattre que la France, que l'Italie, que l'Espagne, que l'Union européenne. Moi, je suis désolé.
Mais on sait qu'ils comprendront pas Israël. Mais il faut être réaliste.
Là, vous êtes en train de faire un amalgame et de créer un espèce de système communautaire. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, a pas plus de raison. Ce n'est pas une guerre de religion.
Pas du tout.
N'a pas plus de raison.
Israël est encerclé par des pays arabes. Il faut qu'à un moment donné, au moins, ils se mettent d'accord avec les pays qui sont autour d'Israël.
Quand tu combats,
il faut pas aller chercher.
Un Tunisien, il va aller combattre en Australie parce qu'il y a des choses qui se passent pas bien.
J'ai parlé de diplomatie.
Quand tu combats quelque chose dans le monde. C'est pour des valeurs, c'est pour des. C'est, tu combats les crimes.
Si l'ONU était. Karim, si l'ONU. Si l'ONU était efficace, on l'aurait su. Mais dans tous les.
Oui, dans les cas qu'elle décide. Elle décide, elle trie les cas.
Dans le monde.
Messieurs, nous allons passer au second sujet, parce que je vois que l'heure passe, il est 19h33 en direct. On va parler, retour en France, les législatives. Je me rappelle de Ruffin, vous connaissez Ruffin, le député, qui avait dit que l'Assemblée nationale soit représentative de la diversité de la société. Alors, est-ce le cas? Est-ce que eux-mêmes, les insoumis, ont ouvert, évidemment, la voie? Est-ce qu'ils ont montré l'exemple? Parce que lui, il dit qu'il souhaite qu'il y ait une plus grande diversité à l'Assemblée nationale pour représenter toute notre société dans son ensemble. Alors, avec ces investitures, pas tout parti confondu, est-ce que vous trouvez, oui ou non, on fait un tour de table, que la diversité, elle est suffisamment représentative, la diversité, elle a toute sa place, et que ce débat, on en a parlé en 2017, on en a parlé avant et encore, et il est encore d'actualité aujourd'hui. Ahmed Lawedge, c'est une vraie question.
Adil, je te l'avais dit, moi, auparavant, et on avait parlé ici de la diversité et des gens qui se présentent aux élections, je t'avais dit qu'aujourd'hui, pourquoi les quartiers populaires ne votent pas, c'est qu'il n'y a pas une représentation qui puisse être faite pour que ces gens-là se déplacent.
Sauf que là, ils ont démontré...
Non, ils se sont déplacés pour faire barrage, et je leur remercie, et barrage à l'extrême droite pour faire gagner Emmanuel Macron. Sauf que, et aujourd'hui, quand je vois en Seine-Saint-Denis, alors nous on aura bien sûr des candidats PRG sur la Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers avec Soumia Achfarguig, sur Bagnolet on aura Amit Cher, sur la 9e circonscription on aura Zakaria.
Voilà. Donc les gens issus de la diversité.
On va, et puis on a aussi Henri qui va peut-être se présenter, Henri Paumé. Donc voilà.
Henri comment?
Henri Paumé. Qui doit donner sa réponse demain pour se présenter, parce que aujourd'hui, et je suis d'accord avec Karim, on en parlait en aparté, il faut que maintenant les gens puissent aller se présenter à ces élections législatives pour commencer à être visibles, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir. Nous, le PRG, on sera PRG centre-gauche qui présentera des candidats sans alliance avec la France Insoumise. Et je termine, la France Insoumise, tu disais qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a ouvert les portes? Excusez-moi, mais quand vous voyez ce qui se passe avec Kasdine Taibi Astin, qui était le porte-parole,
qui était
le porte-parole de Mélenchon, à qui il a fait campagne pour que Mélenchon soit un score assez important en Seine-Saint-Denis, eh ben il n'a pas l'investiture de NUP, parce que pour moi c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on utilise ces gens-là et après pour les mettre pour leur proposer un poste sur une élection importante qui est des députés de la France, et ben là on leur dit non c'est pas votre heure. Et ça c'est une
19h35, on va marquer juste la dernière pause pub, on se retrouve justement pour écouter Mehdi Jaziri, Karim Alouache. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, on voudrait vous entendre vous aussi au 01 53 48 3000.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM 19h 20h Les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h41 avec Mehdi Jaziri, avec Ahmed Lawedge, avec Karim Alouache. Tiens, je donne la parole à Karim Alouache concernant donc l'Assemblée nationale et les couleurs de notre société. Est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, dans ces investissures, la représentativité est suffisamment présente? Karim Alouache.
Moi, j'ai envie de te dire, on n'a que ce qu'on mérite et que on n'a qu'à y aller. Si on s'en plaît, il faut y aller. Faut pas attendre la main. La réponse, c'est non. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Ça ne s'est pas amélioré. Et quand on leur donne des investitures, ils acceptent d'aller dans des investitures, dans des circos, j'ai envie de dire, impossibles à gagner ou pas gagnables. Ouais. Ou sinon, on les met en opposition. C'est-à-dire qu'il y a des circos qui sont racisés, donc tout le monde va mettre quelqu'un de racisé dans cette circo. Ouais, ouais. Mais ça existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, la diversité accepte de jouer le jeu. Et tu as raison de le dire, que ce soit la gauche, la droite et les filles. Regardez aujourd'hui la couleur de l'Assemblée nationale. Pourquoi en 2020 ça va changer alors qu'en 2017 ça ne l'a pas été ? Qu'avant ça, ça n'a pas été. Ouais. Donc moi, ce que je dis à tous ceux qui ne sont pas contents et qui se posent la question, la réponse est oui, ce n'est pas représentatif. Ouais. Et la solution, il n'y en a qu'une. Présentez-vous. C'est tout. Présentez-vous massivement. Bah, dans ce cas-là, on discute, on se rassemble et on se met ensemble et on choisit un candidat et on y va. Si on ne le fait pas, ça ne changera jamais. Ça sera toujours la politique de la main tendue, de faire l'aumône. Et ça, à un moment donné, ben, le seul moyen de dire stop, c'est d'y aller.
De créer le rapport de force.
Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui prétendent vous défendre le font sans vous. Non, donc, contre vous.
Sur le fond, il n'a pas tort.
Ahmed Lawadj.
Il n'a pas tort sur le fond. Aujourd'hui, les places sont chères. On voit aujourd'hui en Seine-Saint-Denis ce qu'a fait Stéphane Troussel de signer son accord avec LFI. C'est en gros pour dire voilà, bon, on ne va pas se présenter, on ne va pas mettre de candidat. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est déjà à l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il va se présenter au sénatorial. Pour dire je ne vais pas me griller là. Parce que sinon, ça va être ridicule. Il va se prendre une claque. Donc, je laisse tomber. Je soutiens Mélenchon. Et à partir de là, l'année prochaine, je me présente au sénatorial. Mais on aura des candidats du PRG au sénatorial. Et on aura des listes aux européennes du PRG. Et on fera en sorte qu'à un moment donné, des candidats puissent être soutenus par le parti radical.
Juste si je peux
rajouter. Pour pouvoir se présenter et faire en sorte de changer les choses. Et de changer la politique qui sont menées aujourd'hui.
Si je peux juste rajouter un truc.
De biftécard et de personnes qui aujourd'hui sont là juste pour gratter. Pour eux,
pas Karim Allo, je suis ensuite, je donne la parole à Mehdi Jaziri qu'on n'a pas entendu.
Les Français en ont marre de cette politique, des petites magouilles, des petites ententes, des petits accords incestueux, ça, faut
c'est
le dire.
Fou, c'est vrai.
Non, mais les gens en ont ras-le-bol.
Ils en ont
ras-le-bol.
C'est vrai, c'est pour ça
qu'à l'abstention. On n'a jamais vu, honnêtement, autant de parachutage. Et même quand on veut te faire un petit coup semblant de diversité, on te parachute des Parisiennes en Seine-Saint-Denis. On te parachute.
Aujourd'hui, ça fonctionne.
Non, mais. On est dans le monde des parachutes.
Non, mais le parachutage ne fonctionne plus dans la Seine-Saint-Denis.
Non, mais même ailleurs. Non, mais ailleurs.
Si, ça fonctionne. Le parachutage.
Putain.
Les gens de LFI.
Il y a même.
Ils viennent de Éric Coquerel, Paris.
Mais il y a des.
Bastien Lachaud, Paris. Trouvé, Paris. Ils viennent tous en Seine-Saint-Denis.
Attends, mais Garrido et Garrido, Bobigné.
Alexis Corbe. Ils viennent tous sur le dos des quartiers populaires. Mais pour faire représenter quelqu'un des quartiers populaires, non, c'est pas pour vous. Ça sera pour la prochaine fois, peut-être. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ça ne sera pas la prochaine fois.
Ça ne sera.
Les quartiers populaires, de faire en sorte de se positionner et de.
Ahmed,
c'est ce que dit Karim
Ça ne sera jamais tant qu'ils n'iront pas eux-mêmes. C'est tout. Ça ne sera jamais.
Mais dis Jaziri.
Moi, je pense que ces élections, c'est des grosses machines qui bouge pas depuis des années en fait finalement et quand on a vu justement ce problème qui était devant nous de la diversité, on en a fait de la récupération politique en fait. C'est simple, tous les partis en fait essaient de les récupérer à leur manière, comme si on achète une carotte en fait devant un âne quoi. Simplement ceux issus de la diversité se disent ah génial, j'ai pouvoir faire de la politique un peu, et mais finalement en fait ils sont pas du tout représentés. Et il y a qu'à voir aujourd'hui, enfin je veux dire, ceux qui tiennent vraiment les politiques, et c'est ce qui est dénoncé par pas mal de personnes, c'est ce vieux cliché, pardonnez-moi, du vieux mâle blanc. Voilà, ce cliché sort pas de nulle part.
C'est vrai.
Donc en fait, finalement, je pense que c'est un réel travail de fond qu'il faut faire. Je pense pas qu'il faut y aller de manière faut pas se révolter. Tout bénéfice ne se trouve pas dans la révolte. Je pense qu'il faut y aller calmement et il faut essayer d'y aller intelligemment surtout.
Vous répondez quoi, Karim Alouache?
Mais alors là, je suis pas d'accord. Ça fait 50 ans que ça fait, depuis 83, depuis la marche des beurs. On essaye d'y aller doucement. Ouais. Faut arrêter. À un moment donné, si on veut changer les choses, il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Vous avez des gens qui sont les professionnels, les pigeons voyageurs du parachutage. Nous, parce que j'en suis plus, mais moi, je l'ai dénoncé. Moi, en 2021, j'ai dénoncé un parachutage d'une Parisienne en Seine-Saint-Denis qui s'est fait élire conseillère régionale, seule conseillère régionale de LREM dans le 93, qui est une Parisienne, et qui, là, on la retrouve, quoi? Investi où? Dans les Hauts-de-Seine? Non, à un moment donné, à un moment donné, il faut dire stop. T'as pas d'autre moyen. La politique, c'est du rapport de force. Je vais vous dire un truc. Ils en ont tous rien à foutre de la Seine-Saint-Denis. Ils s'en foutent tous. Et pourquoi? Parce que c'est le zoo qu'on vient visiter. Parce que c'est la pauvreté. Et tout le monde. Non, non, je suis en colère parce que tout le monde vient visiter la Seine-Saint-Denis. Quand on veut se montrer, c'est t'as l'impression qu'ils sont en visite au zoo. Et après ça, ils se barrent. Regardez les investitures de La République En Marche en Seine-Saint-Denis. C'est un scandale. C'est une honte. Regardez les autres investitures. Rien ne change. Là, en ce moment, il y a des circonscriptions. C'est la guerre. Les gens, ils tombent des nues. Mais pourquoi t'as mis elle? Mais ça n'a rien à voir, etc. Et quand vous le dénoncez, vous vous faites virer. Et ben moi, avec mes 11 collègues, je suis très heureux d'avoir signé cette tribune et d'avoir dénoncé toute cette façon de faire. Et ça concerne, je le dirais, Ahmed, t'as raison, tous les partis politiques. Donc si vous voulez que ça change, si vous voulez mettre fin à cette pratique, vous vous présentez, merde, mettez-vous d'accord une fois pour toutes, prenez-en un, mettez tous un peu d'argent et on y va.
Ah, c'est la colère, j'ai jamais rarement vu Karim Alouache comme ça, mais là,
je pense que l'approche,
il est en colère.
L'approche doit être, je pense que c'est le rassemblement qu'il faut. Il faut que justement ces gens issus de la diversité, issus des quartiers, se rassemblent.
Lequel rassemblement? Non, pardon. Ça va.
Non, il faut qu'ils se rassemblent, il faut qu'ils soient tous autour d'une table et qu'ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a vraiment, moi, je veux aller vers le positif. Dans la scène, par exemple, on a des talents au niveau de la communication, au niveau de il y a par exemple le Bondy Blog qui s'est lancé, enfin il y a énormément de choses qui sont créées, il y a énormément de créativité.
Non,
mais
attendez,
Bondy Blog, c'est vrai,
mais
attendez,
laisse-moi finir. D'accord? Maintenant, aujourd'hui,
non, ça
aujourd'hui,
te forge.
Ça te forge.
C'est là, vrai.
À un moment donné, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui sont peut-être, moi je pense qu'ils sont bien organisés, et je pense qu'au niveau de la stratégie politique, c'est des gens qui sont très intelligents. La nouvelle génération qui arrive en politique.
Mais moi, au-delà de ça, il faut garder la tête froide en politique. On peut pas.
Peut-être peser, sans leur dire, ouais, mais c'est.
Non. Ahmed.
Oui. Attends. À un moment donné, il faut savoir que quand tu es dans une formation politique, moi, ça fait 28 ans que je suis au Parti Radical de Gauche. 28 ans. Est-ce qu'ils m'ont donné quelque chose une fois?
C'est beau.
Je me suis battu. J'ai été 18 ans élu à Aulnay-sous-Bois. Maire adjoint, conseiller municipal, j'ai voulu être conseiller régional, je me suis battu. Tu regardes il y a même un livre qui a été fait de Frédéric Nau, Frédéric Beau, sur
je vais te répondre à ça très rapidement.
Les bourgeois de la République.
Ah, les bourgeois de la République. Je l'ai reçu ici.
Moi, j'ai été sacrifié en haut lieu par Jean-Michel Bailey, par Manuel Valls. J'ai été massacré. J'étais sur une liste régionale avec Huchon. Ils m'ont massacré. De la 8e place, je suis passé à la 10e. Et si je continue pas, et je laisse faire.
Pardon.
Eh ben,
Karim Alouache.
Je dis qu'à un moment donné.
Karim Alouache.
Il faut présenter.
Écoute, moi, je
Karim Alouache.
On dit la même chose et on est d'accord. Moi, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, mais j'ai vu la façon de faire. Vous savez pourquoi ils ont changé les règles? Je vais vous dire, les partis politiques. Et moi, j'invite tous les jeunes, là, qui se plaignent, rentrez dans tous les partis politiques.
Bien sûr.
Mais massivement, par milliers, par dizaines de milliers. Et pourquoi ils ont peur? Parce que pour changer les règles, vous savez, d'être responsable départemental, avant, c'était simple. Les militants votent, les adhérents votent. Non! La République En Marche, les adhérents votent pas. C'est le QG qui choisit le patron du département parce qu'on veut avoir la main dessus. Et c'est la seule force que nous avons. Parce que si on veut changer les choses autrement, on n'y arrivera jamais. La seule force, c'est le nombre.
Mehdi.
Et ça, nous l'avons.
C'est l'organisation, surtout le nombre. C'est un chiffre. C'est l'organisation. C'est comment on se rassemble. Comment on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Comment on s'organise et on va essayer de changer les choses. Parce que ceux qui connaissent justement les quartiers, je suis d'accord avec vous sur le fond, ceux qui connaissent les quartiers populaires, ceux qui connaissent la zone du 93, c'est ceux qui y vivent vraiment. Et il faut que ces gens-là s'entendent et se disent qu'est-ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va attirer plus de monde. Mais ça avec du respect, avec de la paix, et pas rentrer dans ce jeu, parce que c'est ce qu'ils attendent en fait. Les Parisiens, c'est ce qu'ils attendent, que les mecs des quartiers commencent à s'énerver et commencent à les insulter pour les décrédibiliser. C'est ce qu'ils attendent. Et ce qu'il faut faire, c'est avoir la tête haute, la tête froide, et leur parler avec respect.
Non, mais là tu déformes. J'ai pas dit qu'on allait agresser. J'ai dit, je suis virulent dans mes propos, pas vis-à-vis des opposants, vis-à-vis de ceux qui se bougent pas.
Mais il faut de l'ordre.
Et qui se plaignent. Non, et qui se plaignent. C'est très organisé. Vous parliez des talents de la Seine-Saint-Denis. À la République En Marche, il y avait une organisation qui s'appelle les 1000 talents. On a formé des jeunes, on a formé des gens. Et qu'est-ce qu'on nous fait au régional? On nous parachute une parisienne. Je te le dis et je vous le dis, ils en ont rien à foutre des quartiers. Ils s'en foutent. Et je dis aux gens des quartiers, n'attendez rien d'eux. Présentez-vous, rentrez massivement dans les partis politiques. Le pouvoir dans ce pays, c'est le pouvoir politique. Allez-y, il y a des élections. Choisissez, organisez-vous et choisissez un. Moi, je serai toujours là pour vous aider. J'en ai rien à faire d'être un élu. Mais il faut changer les choses. Arrêtez de faire l'aumône pour un petit mandat, pour une petite indemnité et croire que vous avez fait quelque chose. Vous n'aurez rien fait.
Aujourd'hui, c'est le coup de gueule de Karim Alouache. Hein.
Ouais, non, mais il y en a marre. Toute l'émission. Ça fait 50 ans que ça bouge pas.
Il y en a marre. Vous savez que c'était un mouvement, il y en a marre. Hein. Vous le saviez, ça?
Oui.
Bah voilà, tiens, ça y est.
Un mouvement, il y en a marre. C'était un mouvement. Il y en a marre. Y compris au Sénégal, ça s'appelait Il y en a marre. Il y en a marre.
Vous êtes un mouvement. Vous êtes un mouvement. Vous investi, vous y allez dans votre circo. Vous n'en avez rien à faire.
Bon, messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. On va rendre l'antenne. Je voulais. On va quand même faire un tour de table sur la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine. Est-ce qu'elle annonce finalement un nouvel ordre mondial? Quelques mots avant de rendre l'antenne, j'ai une minute au fait. Mehdi Jaziri.
Oui, et tant mieux, finalement. Parce que c'est vrai que si on regarde dans l'histoire, au départ c'était la France avec le rayonnement justement des philosophes des Lumières qui avaient le plus grand rayonnement mondial. Ensuite c'était les Anglais avec la révolution industrielle. Et puis après on a eu les Américains. Et ça, ça a perduré. L'Occident a perdu le pied et du coup la Russie prend le dessus. Donc là maintenant on a ce conflit qui s'agrandit de jour en jour parce que la Russie essaie de prendre le dessus.
Ahmed, voilà. Non, Ahmed Lawedge, on a vraiment quelques secondes.
Ce que je dis, c'est que cette guerre va continuer, que malheureusement il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Et je pense que au bout du compte, comme le disait Lula à l'époque, enfin Lula l'a dit la semaine dernière en disant il y a peut-être des torts de par la Russie et de par l'Ukraine, parce que peut-être que la Russie voulait faire la guerre, mais l'Ukraine aussi voulait faire la guerre aussi. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que surtout que la guerre s'arrête et que la paix puisse être, je dirais, rapidement faite pour que les habitants qui aujourd'hui en souffrent de plus en plus et qui...
Karim Alouache, Karim, vous recevez beaucoup de messages, beaucoup d'auditeurs vous soutiennent.
Alors,
ils disent qu'il a raison, c'est pas normal, et qu'on rejoint évidemment Karim Alouache et ses propos. Beaucoup de commentaires, donc voilà.
Écoute, je suis désolé d'être virulent, mais je suis aussi passionné, à un moment il faut changer les choses. En ce qui concerne, oui, l'ordre du monde, il y a l'ordre du monde diplomatique, il est clairement en train de changer. Il y a un nouvel axe qui se crée, Russie, Chine, Turquie, Iran, c'est clair. Il y a une nouvelle organisation. Dans ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, il ne faut pas rêver, les États-Unis ne sont pas neutres là-dedans. Plus on déstabilise l'Europe, plus on renforce les États-Unis.
Bien sûr.
Enfin, je pense que tout cela était prévu. Je me souviens d'avoir mis un poste lorsqu'on était en train de nous embêter là pour la énième fois avec l'histoire du voile. Moi, j'ai répondu, c'est pas le voile qui m'inquiète, c'est les chars russes aux frontières de l'Ukraine. Deux jours après, ils rentraient, quoi.
Merci Karim Alouache et votre coup de gueule.
J'espère en tout cas qu'on va conserver la paix, on va la préserver.
Surtout. Exactement. Merci à Ahmed Lawedge.
Merci Adil.
Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous, c'est les informés. Merci à la réalisation, à Yanis. Bilal Nenman, IB1, c'est lui qui prend l'antenne de 20h à 21h avec Time Sport. Il est où, Bilal? Ah bah tiens, Bilal, bonsoir, mon cher
Bonsoir,
Bilal.
Bonsoir, comment ça va?
En 5 secondes, quel est le programme?
En 5 secondes, on va parler de la Juventus de Turin, de la Serie A, de la Ligue 1 et aussi Mbappé.
Il a donné le ton.
Ils ont perdu.
À demain avec autant de plaisir.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast.